Solitudinaire, chapitre 10. Le dernier chemin. Le départ d'Arcadie laissa le groupe interdit. Creux de Vague s'évertuait à éloigner Escar de Tranchée, mais ce dernier ne pouvait s'éloigner longtemps de Solitudinaire. Cadavriel semblait se concentrer sur l'île de Gloubinka. Il semblait réfléchir à un plan. Dès qu'il sentit le regard de Vox sur lui, il se défit de l'ombre qui planait sur son cœur. Solitudinaire pouvait voir désormais un visage flotter à côté de lui. Kolia tenait la main sacrifiée de Pied de Sang. Cette dernière faisait inconsciemment quelques pas de danse avec ses pieds. L'enfant le regardait fixement. Il jouait de son couteau. La pointe dessinait dans le sable de la plage d'étranges caractères. Vossem était assise sur un rocher et faisait des ricochets en tentant d'atteindre l'île. Bud observait le maire s'éloigner avec Sid. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il sembla à Solitudinaire que la situation n'avait pas tourné comme il le voulait. Vox voulut s'asseoir, mais une ombre couvrit son soleil gris. Il leva la tête et découvrit l'immense carcasse de Wolf Exley, le barman narcolycanthrope. Un loup-garou de plus de 2,50 m, des griffes comme des poignards d'obsidienne, des yeux d'une dévorante et sanguinaire faim. Solitudinaire n'osa pas bouger, mais il remarqua presque par hasard une forme grise perdue sur l'épaule velue de l'animal humain. Umbrello Schiarapinelli. Le vieux vagabond semblait dormir, un sommeil toutefois agité. Wolf voulut parler, mais il s'en rendit compte que sa condition ne le lui permettait pas, et se contenta d'ouvrir une large gueule. Solitudinaire sentit presque une terrible morsure venir déchirer le vide de son cœur. Il eut envie de rire. La manière dont cette absence lui était devenue commune. Escar de Tranchée vint à ses côtés. Il se mit à jouer avec ses doigts aiguilles, comme s'il voulait traduire le silence d'Exley. Solitudinaire resta quoi ?
Il dit qu'Ombrello veut que tu lui rendes un service, dit Pied de Sang.
Solitudinaire l'observa longuement, comme s'il s'attendait à une suite. Anouchka fit un pas de deux sous le regard noir de Vossem. Le nom d'Umbrello semblait avoir réveillé le vagabond anthracite. Il tendit un long bras mec vers Vox.
« Il faut que tu m'amènes chez le terminal, »
dit-il avec difficulté. Solitudinaire se souvint des paroles du terminal.
« Ah, laisse-le-moi !»
s'écria Bud en jouant de son couteau. « Je m'occupe avec plaisir. » « Je suis doué pour tuer les gens. »«
Non, » répondit Solitudinaire. Exley montra ses crocs et du tréfonds des entrailles de la bête, une tempête de grognements se leva et brisant l'élan meurtrier de Naif Rezak. Ce dernier prit ses jambes à son cou et partit à la suite d'Arcadie. Solitudinaire voulut rire, mais n'en fit rien. Exley prit le vieux Scarabinelli dans ses bras et le porta à la hauteur du visage de Vox.
Moi, si tu m'emmènes chez le terminal,
murmura le vagabond dans une voix sifflante,
je te dirai certains secrets sur cette ville.
Solitudinaire l'observa de près. Il semblait avoir encore plus vieilli. Sa peau était d'une maigreur effroyable, comme si la chair elle-même était devenue minérale et se fissurait. On dirait une statue humaine qui se désagrégeait sous l'absurdité de son existence. Il n'y avait que ses yeux qui restaient humains. Sa langue de marbre rose courait sur les rives noires de ses lèvres pour les couvrir d'une salive de poussière. Solitudinaire aurait pu pleurer s'il avait pu. Mais quelque part au fond de lui, il enviait le sort de cet être condamné. Il allait dormir pour toujours, après que le terminal ait fait son travail. Il allait finir avec cette ville et ses démons. Il n'allait plus voir cette silhouette se dessiner éternellement devant ses yeux, sans même pouvoir y poser l'esquisse d'un nom.
il posa sa main sur le front de Scarabinelli et sentit comme il était chaud. Et elle avait la texture du sable solide. Une lame noire coula sur le joug du vagabond. Sa langue tenta de l'attraper au vol, mais il la manqua. Il eut un long râle. « Allons-y, » dit Solitudinaire. Escar fit un pas vers lui, mais Creux de Vague l'en empêcha. Il se déroba et vint se mettre près de son ami, car un naufrage tremblait aux pieds de son maître. « Ah, oh, tu fais chier, Soli machin !» pensa Creux de Vague. « Je voulais pouvoir le saigner seul !» Elle se rendit compte de ce qu'elle venait de dire. Elle passa sa main devant sa bouche, tout en douceur comme au ralenti. « Tu ne toucheras pas à mon frère !» s'insurgea Anouchka. « C'est l'hôpital qui se fout de la charité !» répliqua Creux de Vague. Les deux femmes se fusillèrent du regard sur le sourire vorace de Vossem. Cadavriel fit claquer son aile et attrapa Pied de Sang par la main. Elle voulut protester. Mais le silence terrible du roqueur la plongea dans un mutisme d'acceptation. Elle se laissa faire, entraînant les pieds comme seules savent faire les danseuses. Kolia prit la main de Vossem, comme s'il savait ce qu'il y avait à faire à ce moment très précis. Elle lança un regard à Solitudinaire. Il apprécia ce moment. Elle avait fait appel à tout ce qu'il y avait de féminin en elle. Une sensualité de bord d'abîme, un joli collier de guillotine. Il sentait le poison couler sur son épiderme avec une telle facilité que c'en était bête à rire. Toute cette passion qu'il n'avait jamais suscité chez une femme et qu'il devait refuser là parce qu'un vieux voulait mourir par la main d'un bourreau dévoreur de sa propre fille. Un mourir de rire. Il savait que s'il faisait le pas vers la tanière du terminal, elle fermerait à jamais sa porte sur la tangibilité de ses désirs. Il fit ce pas et Kolia emporta la rage sourde de Vossem. Creux de Vague exultait de la défaite de sa rivale. Solitudinaire soupira en voyant Esca prendre la direction du désert du grand n'importe quoi. Il portait décidément bien son nom. La petite partit à la recherche d'une voie de chemin de fer. Qu'un naufrage, l'impactophile, ouvrait la marche avec Escar de tranchée. Solitudinaire marchait à côté de Wolf Exley qui portait toujours Ombrello Schiarapinelli dans ses bras. Creux de Vague fermait la marche en jurant ses grands dieux que la marche était l'occupation la plus conne qui soit et que les hommes avaient décidément un besoin stupide de s'oxyre debout alors que les petits plaisirs de la vie, comme ouvrir ses plaies, ne demandaient pas tant d'espace ni d'effort.
« Mais si Arkady peut faire venir ici des gens, » dit Ombrello soudainement, faisant sursauter Solitudinaire, « que toi, tout beau, tes souvenirs pour les autres. »
Solitudinaire sourit de cette précision de fin de phrase.
« Que vodka nous empoisonne le destin avec ses farces à la con, »
dit Ombrello en toussant de plaisir à sa plaisanterie. Huxley le berça pour calmer sa toux.
« Quant à Mio, je sais comment les gens sont morts. Je suis l'électeur des agonies. »«
Pardon ? Qu'est-ce que t'as dit, Arkady ?» Il m'a dit que j'ai avalé mon doigt.
Alors, c'est ainsi que tu es mort.
Pardon ?
Tu croyais que tu étais fou et que tout cela n'était que le produit de ton imagination, que nous étions tous des jouets de ta folie. Non, Soli, nous sommes tous morts.
Tous ?
Si, tous, petit moucheron. Je suis mort de faim dans un camp bien loin de chez moi, après Stalingrad. Tu connais ?
Oui. Mentit Solitudinaire. Il réalisa que l'histoire, avec un grand H, il l'avait aussi perdu, alors qu'au fond de lui, il savait que cela le passionnait.
Exley est mort, dévoré par des loups, alors qu'il faisait une randonnée tranquille après qu'il ait fait une chute.
Exley hurla au ciel. Creux de Vague était dans l'ombre du trio.
Je suis mort en avalant mon doigt.
Demanda Solitudinaire.
Oui, tout l'a arraché avec tes dents. Mal t'en a pris.
Il eut un petit rire sardonique qui s'acheva dans une quinte de toux.
Et moi, je suis morte comment ? S'écria soudainement Creux de Vague.
Donne-moi ta main.
Je ne veux pas. T'es vieux, t'es moche, en plus t'es quasiment un cadavre.
Si, si tu veux savoir.
Oh, ça pue ton histoire. Oh, chier, ça pue ton histoire.
Tu l'as déjà dit.
Creux de Vague lui tira la langue en tendant son maigre bras. Umbrello l'attrapa comme un animal vorace. La jeune fille eut une grimace de dégoût, mais ne le dissimula pas.
La vérité comme poison, avait dit Vodka.
T'es comme Exley. Tu as fait une belle échoute,
dit Umbrello en une sorte de transe.
Dans une usine désaffectée remplie de morveux de ton espèce. La police, tout le monde a fui. Et toi, tu es tombé dans une fosse. 3 jours d'agonie. Ce que t'as pu causer avant de taire définitivement. De l'allemand en plus. J'en avais plus entendu depuis Stalingrad. 3 jours.
Et ils m'ont retrouvé ?
S'interrogea Creux de Vague.
Je fais la chronique des agonies, pas des retrouvailles de cadavres égarés.
C'est pas parce que t'es une semi-dépouille qu'il faut être aussi désagréable.
Ouais, la décomposition ne te rend pas aimable.
Umbrello partit d'un grand rire.
Tout me plaît, la morveuse, dit-il, bien que tu sois l'une des leurs.
Vieux con, va.
Umbrello se plia de rire jusqu'à ce qu'un toux l'oblige à calmer sa joie. Huxley le berça et le souffle redevint normal.
Et les autres, ils sont morts de quoi ?
S'écria Creux de Vague.
Alors vint une longue énumération de cadavres. L'accident d'avion de Cadavriel lors d'une tournée, le cancer de Sid Garrett, la chaise électrique de Knife Rezac qui lui valut une seconde de respect, l'exécution sommaire d'Arcadie dans un petit coin de forêt par ses pairs, lui valut aussi une seconde de respect. La longue mort invisible à Nyeshka dans les environs de Pripyat, l'escarpe de tranchée qui s'était vidée de son sang dans une salle d'hôpital après la dernière visite de sa sœur.
Et la danseuse ?
Demanda Creux de Vague.
Comment elle est morte ?
Moi, je ne sais pas. De vieillesse ou dans un accident volontaire de voiture. Je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est sa réalité ou qu'est-ce qui est sa folie qu'elle s'est construite au fil du temps.
Et Vossem ?
La bellissime à Vossem. Un jaloux lui a tailladé la peau sur un parking. Elle s'est noyée dans son sang pour une ultime dose de son poison.
Ouais, cool. Et le connard de vendeur de poison ?
Vodka. Lui, c'est un mystère. Trop obscur pour arriver à distinguer quoi que ce soit. En tout cas, c'était pas joli joli. Oh merde.
La migraine de solitudinaire gagnait des parties contre sa raison. Il comprenait la bataille vaine d'Anouchka à vouloir un enfant, alors que de son vivant, cela lui semblait la dernière abomination. « Et Saligula ?» demanda-t-il.
« L'abomination ? C'est qui ce type ?»
demanda Creux de Vague.
« Une erreur, »
répondit Umbrello froidement.
« Il a pris très longtemps à mourir. Ils se sont amusés avec lui avant qu'il soit libéré de son corps. » Il n'y avait plus rien d'humain en lui.
C'est qui ce type ?
Mais personne ne lui répondit. Solitudinaire aurait dû s'inquiéter pour Kolia, mais quelque chose en lui refusait de se conjuguer avec le présent. Il voyait le vide que lui avait fait l'enfant, cet annulaire qu'il avait dérobé et qui était synonyme de sa mort si stupide. Ils arrivèrent à des rails qu'ils suivirent en silence.
Mort ? Dans ce monde. Mais c'est quoi ici ?
L'enfer, le paradis ? Demanda enfin Solitudinaire quand ils arrivèrent près du pont.
Le paradis ? Plaisanta Umbrello.
Umbrello se mit à rire, à tousser, mais surtout à rire.
Le paradis ici ? Dit-il entre deux éclats et de tout.
Même Exley eut un rire de loup-garou, d'iribe et guttural.
Nous sommes à mi-chemin entre le foutu monde des vivants cancrelats et le grand karma marmelade des possibilités. Et c'est là que je vais faire de l'ange stop au carrefour des migrations nombrilistiques, qu'on me fourre dans la carcasse vide d'un nourrisson et que je recommence une fois de plus cette mascarade.
Mais pourquoi? Pourquoi continuer si cela vous est si désagréable?
Parce que j'en ai marre d'avoir tout le temps faim. Je me serais dévoré moi-même certains jours. Je suis là depuis le début. J'ai vu cette ville grandir au fil des générations et je ne veux plus la voir, plus la sentir. Le terminal doit me réaffecter sur une autre voie.
Qui a créé cette ville? Demanda Creux de Vague.
Ah, c'est compliqué. Vous savez, au début, il y a eu... Ah, je ne peux pas tout vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a pas que la ville ici. Il y a aussi d'autres territoires en dehors. Si tu veux savoir,
dit-il en se tournant vers Solitudinaire,
il faudrait que tu ailles voir le marin de ma part. Il vogue sur la frontière sud de la ville.
Le marin ? Demanda Solitudinaire.
Lève, c'est presque mon frère. On a grandi ici. Il te racontera tout. Enfin, à sa façon, bien sûr.
Et où se trouve-t-il ?
De la tanière du terminal, tu vas vers le sud, toujours vers le sud. Tu prends la ligne numéro 2-6 et tu vas jusqu'au bout. Et tu le trouveras dans sa carcasse, au bord de la mer.
Oh ! Il y a une mer ici ?
Si.
Le silence se fit. Ils étaient arrivés au bout du très long pont qui amenait à la citadelle d'acier du terminal. Le lieu imposait le respect. Solitudinaire chercha Solenza mais ne vit rien. Il avait toujours en tête l'image du terminal dévorant sa fille pour qu'elle échappe au chat chimio. Le sang, la chair brisée et la rouille. Cet homme en croix, la tête en bas.
On y va seul.
Et Umbrello, entendant le bras vers Solitudinaire.
Exley, tu restes là. Je te dis adieu, mon petit loup.
Exley ne l'entendait pas. Il dormait debout. Umbrello eut un petit rire. Solitudinaire laissa le vagabond tomber sur son dos. Il était d'une incroyable légèreté. Il devait tendre l'oreille pour l'entendre faiblement respirer, pour deviner que l'ombre palpable d'un être humain siégeait derrière son crâne. Escar voulut les suivre, mais Creux de Vague posa une main sur son armure. Elle lui lança un sourire candide, presque vulgaire, tant il montrait l'envie qu'il soit seul. Solitudinaire eut un élan de remords à laisser son ami muet dans les mains de cette junkie barbare. Scarapinelli lui montrait de son bras affamé la direction à prendre. Solitudinaire fit le premier pas et ne s'arrêta pas avant d'être entré dans l'antre. Il faisait noir. Solitudinaire distinguait à peine la silhouette du bourreau accroché entre ciel et terre. Les chaînes se mirent aussitôt à se mouvoir. Il sentit le corps lourd de l'ogre toucher le sol. Umbrello glissa de son dos et tenta de se tenir sur ses jambes. Solitudinaire voulut lui venir en aide, mais le vieux soldat italien refusa. Il esquissa quelques paroles et un sourire, mais tout mourut sur ses lèvres en anthracite. Un trou se fit dans l'antre de l'enfer, et la lumière coula en une colonne poussiéreuse sur la carcasse grise du vagabond. Il tomba sur ses genoux. Solitudinaire aurait juré les avoir entendus se briser. Il voyait l'ombre immense du bourreau s'approcher de sa victime. Son corps entier faisait un bruit atroce, une souffrance impossible pour les oreilles, avec des étincelles dans lesquelles apparaissait la hache. Le terminal ne fit pas de discours. La lame fendit l'air en un sinistre sifflement et la tête d'Umbrello Scarapinelli sauta de son corps et fila dans la poussière. Le terminal apparut dans la lumière, la hache et un bébé endormi sur son bras droit.
Solenza.
Solitudinaire ne put s'empêcher de chercher l'animal maudit. Quand il revint sur le bourreau, ce dernier avait disparu, comme si lui aussi avait craint de voir le félin.
Il resta un instant silencieux, immobile. Tout cela avait été si rapide. Umbrello n'était plus.
Il avait cru à une cérémonie, à des paroles unies, à un adieu plein de larmes, mais rien, rien de tout cela. Un geste et le chroniqueur des agonies était parti en poussière. Et solitudinaire le regardait, se désagréger. C'était comme si des enfants avaient construit une statue à grandeur humaine, tout en cendres, et qu'avant léger, désagrégé, millimètre par millimètre. Lui aussi, il aurait voulu entendre ses propres genoux se briser, et cette lame venir faucher si rapidement le cycle de ses possibles. Il aurait voulu oublier cette immense fatigue qui ne cessait de couler en lui et qu'il voulait voir disparaître pour toujours. Mais il n'y avait rien. Le silence et la poussière.